BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Stéphane Pedretti.
Dernière demi-heure de cotation à la Bourse de Paris, le CAC perd 0,36%, 8150 points, Étienne Brack.
Oui, 0,3%, c'est le tarif du jour puisque c'est la baisse d'aujourd'hui et puis c'est aussi la baisse hebdomadaire du CAC 40. 8150 points à l'instant pour l'indice parisien qui est pénalisé notamment par le secteur du luxe. LVMH qui perd un peu plus de 2% avec notamment le départ du directeur général adjoint. La valeur revient à 828 € à l'instant. Kering qui connaît une semaine très difficile, hein, plus de 10% de baisse sur l'ensemble de la semaine après avoir fait un avertissement sur résultat en milieu de semaine. Alors qu'à l'inverse, à Wall Street, vous avez trois indices américains qui sont en passe de signer leur meilleure semaine depuis décembre dernier, avec notamment un indice Dow Jones qui gagne plus de 2% sur l'ensemble de la semaine. Dow Jones qui est pénalisé aujourd'hui par Nike, qui perd un peu plus de 8% après la publication de ses résultats. À l'inverse, ça se passe très bien pour FedEx qui annonce un programme de rachat d'actions supérieur aux attentes. La valeur gagne quasiment 7% aujourd'hui à Wall Street.
Et on refera la séance tout à l'heure à partir de 17h35 avec Étienne Brack, puis avec Thierry Gauthier, Jean-Louis Delereau et Andrea Tueni. On parlera notamment de Emeis, vous savez, c'est le nouveau nom d'Orpea qui fait son retour. 2 ans après le scandale qui a terrassé l'entreprise, les actions ont été regroupées. Une action pour 1000 anciennes actions Orpea. On verra si ça a porté chance au titre. Pour l'instant, il est orienté à la hausse. Et puis, on va vous parler des banques centrales. Quel bilan de la semaine? Une vingtaine de banques centrales ont pris la parole cette semaine. Évidemment, on va s'intéresser surtout à la Fed qui annonce, qui confirme plus ou moins 3 baisses de taux cette année, mais qui relève en même temps ses prévisions de croissance pour cette année. Est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire? On va en parler tout de suite dans le club avec nos invités.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Vous connaissez l'un des clubbeurs, il était avec nous tout à l'heure, Jean-Edwin Réa, gérant chez Quadrille Capital, et on a été rejoint par Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous avez retenu quoi l'un et l'autre? On va commencer par Alexandre, de cette semaine des banques centrales.
Alors, il y a eu trois gros thèmes cette semaine. Il y a un thème très positif du côté de la Suisse, la banque centrale suisse qui a baissé de manière surprise son taux directeur de 25 points de base, c'était pas attendu, donc ça conforte le sentiment que la BCE aussi va pas tarder à le faire très très probablement en juin. La banque du Japon, ça c'était pas mal de rumeurs qui bruissaient quelques semaines avant qu'elle intervienne. Donc,
enfin, ça fait une génération qu'il y avait des taux négatifs au Japon.
C'est ça, une génération exactement, et puis pas de hausse depuis 2007. Donc c'est effectivement, c'est un petit bout de chemin qui va être réalisé. Après, on est quand même très très loin du séisme monétaire où on passe de moins 0,1, rendez-vous compte, à moins 0,1 à 0%, là où la Fed est passée de 0 à 550 points de base. Donc c'est un petit changement pour le Japon. La Banque du Japon qui arrête aussi d'acheter des actifs. Elle a acheté, ça paraît surprenant, mais elle a acheté pendant des années des ETF sur les actions japonaises. C'est comme si la BCE achetait par exemple des ETF sur le CAC 40, sur le DAX. Ça ne s'est jamais fait, ça ne le fera jamais très probablement. Mais la Banque du Japon, ça ne gênait pas de le faire depuis des années. Donc ça, elle a mis fin à ça. Et puis elle arrête de contrôler les taux.
C'est-à-dire, en gros, dit qu'elle a été créative.
Voilà, elle est assez créative. Donc là, elle a mis fin à certaines de ses créations. Et puis la troisième, effectivement, la plus importante, certainement et absolument, c'est la Fed. Et vous l'avez dit, des choses alors intéressantes parce que la Fed, dans ses projections une fois par trimestre, a relevé ses prévisions de croissance par rapport à ce qu'elle prévoyait en décembre dernier.
Alors ça, on va y revenir, parce que ça paraît un petit peu contradictoire de confirmer les baisses des taux et de relever les prévisions de croissance. Mais avant d'entrer dans le détail de la Fed, même question, Jean-Edwin, vous avez retenu quoi? Il a dit beaucoup de choses déjà.
Oui, mais pour un investisseur dans la tech que je suis, c'est un scénario assez idéal, en fait. C'est le scénario Goldilocks. On retire une baisse de taux de l'année. On en a trois, le parcours en fait c'est le même, c'est retardé un petit peu et globalement on va dire moins il y a de baisse de taux, plus c'est favorable aux très grosses capitalisations et ça retarde un petit peu la descente des liquidités vers les plus petites entreprises. Ça c'est le seul bémol, mais sinon le scénario, ça fait déjà en fait depuis un an, on n'arrête pas de reporter la décroissance et on reporte aussi un petit peu on va dire la baisse des taux parce que l'inflation, elle est probablement, c'est pas mon expertise, mais elle est structurellement plus haute qu'elle n'a été dans le passé parce qu'il y a deux méga tendances qui sont inflationnistes, la démondialisation et la décarbonation. Et si ces deux tendances ne sont pas atténuées, on va rester sur des inflations structurelles. Mais rien de très, on va dire, pénible et probablement un petit cadeau aussi pour le coût de la dette apporté, puisque quelque part, la seule chose qui peut vraiment éroder la dette, c'est l'inflation.
On va parler de la Fed, bien évidemment. C'était le gros morceau de la semaine. Statu quo sur les taux, ça c'était largement attendu. Confirmation de 3 baisses de taux cette année, si on en croit les dot plots, c'est-à-dire les prévisions des membres de la Fed. On a failli passer à 2, hein. On n'était pas très très loin. Ça s'est joué à une voix près. Mais il y a quelque chose qui semble un peu paradoxal. La Fed confirme ses baisses de taux à travers les dot plots et elle relève ses prévisions de croissance de manière assez significative. Et elle nous dit par ailleurs que l'inflation ne va pas revenir à 2% avant plusieurs années. Ce qui veut dire, si je résume, que l'économie américaine n'a pas besoin de baisse de taux dans l'immédiat, et pourtant on va en avoir.
Oui, c'est un peu ça que ça confirme, parce que cette économie a quand même été stimulée de manière absolument incroyable, déjà pendant le Covid et post-Covid. C'est une succession de plans de soutien, donc le déficit budgétaire qui a dépassé 10% à un moment donné, qui était encore de 6% ces derniers temps, ça crée une inertie de l'économie qui est absolument incroyable, et qui, avec aussi un match en direct avec la Chine, où finalement l'économie américaine a dopé son économie, a subventionné aussi pas mal de secteurs pour relocaliser, reshoring, hein, remettre des activités stratégiques sur le sol américain. Donc ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité, ça aussi crée de l'inflation. Et donc le job de la Fed, c'est évidemment de pas casser tout ça, de pas faire une récession. Mais pour autant, il y a quand même un mandat. Hein. Le mandat, c'est l'emploi et c'est l'inflation. Sur l'emploi, aucun problème, c'est même plutôt l'inverse. Le marché de l'emploi est toujours assez tendu, pour reprendre les propos de Jérôme Powell. Et comme vous l'avez dit, il y a des choses un peu paradoxales. Parce que la Fed dit qu'elle est data dépendante, hein, c'est-à-dire qu'elle est dépendante des données économiques. Les données économiques nous ont montré quoi ces deux derniers mois? Que l'inflation, notamment l'inflation sous-jacente, était un peu repartie, un rebond un peu inattendu. On a aussi des surprises sur les prix à la production qui repartent un petit peu. On a des matières premières aussi dans leur ensemble qui commencent à redécoller un petit peu en effet de base. Du coup, il n'y a plus des effets de base négatifs, mais ils vont devenir plutôt positifs, ces effets de base. Et vous l'avez dit aussi, l'inflation PCE prévue par la Fed dans ses projections trimestrielles a été révisée à la hausse. Pas seulement la croissance, mais les anticipations d'inflation. Pas énormément, je crois, c'est 0,2 de plus par rapport aux prévisions de décembre. Mais c'est important parce que la Fed nous dit, et Jérôme Powell nous dit tout le temps, nous sommes data dépendants. Les dernières données plaident du coup plutôt pour 2 baisses de taux que 3 baisses de taux. Alors on peut dire, c'est pas grand chose, 25 points de base d'écart, c'est pas énorme. Sauf que pour des marchés, et là on fait le lien entre ce que dit la Fed et les marchés, des marchés américains qui sont déjà chauffés à blanc, qui se paient 21 fois les bénéfices, ce qui est beaucoup hein, pour le SP500 et la tech, entre 35 et 40 fois les bénéfices, il y a un problème d'ajustement de nuance en fait. C'est-à-dire que les marchés actions ont systématiquement bu les paroles de Jérôme Powell, qui s'est montré parfois un peu plus accommodant que nécessaire. En décembre dernier, c'était le cas. Beaucoup avaient fait ce constat. Pourquoi a-t-il parlé de baisse de taux à ce moment-là, alors que nous sommes en mars, toujours pas de baisse, probablement peut-être en juin ou plus tôt? Et donc, pourquoi ces cadeaux au marché qui gonflent, dont la valorisation gonfle, tirés effectivement par des thèmes en plus technologiques? Donc, les marchés n'ont pas besoin de la Fed pour être tirés à la hausse. Mais si en plus, celui qui joue un peu le rôle d'arbitre, qui pourrait dire à un moment donné, bon, sans qu'il vise le marché action, mais qui amène un peu de consolidation, ne le fait pas, eh bien, mercredi soir, il a, au lieu de dire, nous sommes data dépendants et nous sommes effectivement assez vigilants à cette donnée d'inflation, il a dit, on remarque qu'il y a une bosse sur le chemin, c'est-à-dire ce rebond de l'inflation, mais il dit, on ne sait pas évaluer si c'est une bosse ou si c'est un redémarrage. Il le dit. Et juste, il m'arrête là-dessus. Et donc, il dit, mais j'ai confiance. Il dit, j'ai confiance dans le retour de l'inflation à 2%. Donc, en fait, il balaye un peu le côté data dépendant. Je suis data dépendant, donc je dois être plutôt centriste, mais j'ai confiance, donc je bascule un peu du côté de dovish. Et ça, le marché action ne s'est pas trompé. Nouveau record dans la foulée pour tous les indices américains.
Il y a un membre de la Fed bien vénère pour 2025 et 2026. C'est un poste que vous avez fait sur X cette semaine qui nous a beaucoup amusé ici en plateau. On le voit en ce moment à l'écran. Donc les dot plots, on va réexpliquer, ce sont les projections de niveau des Fed Funds des différents membres de la Fed. On voit que ça se tient globalement. Bon, c'est classique pour les dot plots. Puis alors, il y en a deux. Il y a un membre qui, à deux reprises, était complètement à l'écart. Ça veut dire quoi? Il s'est trompé de bouton ou réellement il pense qu'il va y avoir un scénario catastrophe?
Oui, après, quand il est isolé, ça ne prend pas grand-chose. C'est drôle, c'est pour ça que j'ai enlevé, parce que c'est vraiment très atypique.
Mais vous êtes drôle.
Mais ça ne représente pas la masse. Quoi. C'est effectivement la masse et comment la masse bouge. Voilà, et la masse a un mal à bouger. Voilà. Ce qui est important aussi, je m'arrête là-dessus, pas faire trop long, c'est pas en 2024 que les prévisions ont changé. C'est toujours 3 baisses de taux, mais pour 2025, alors ça paraît un peu loin. Mais en revanche,
ça c'est hyper important parce que c'est pour le taux terminal.
Exactement. Il y a 30 points de base de différence entre l'estimation de décembre et celle-ci, donc un peu moins de baisse de taux anticipée pour 2025.
Jean-Edouin,
enfin, on va vous donner la parole. Les taux longs, ils sont passés de 4,30 à 4,20. Ouais. Donc en fait, ils n'ont pas eu peur du tout.
Hein. Oui, ça n'a effrayé personne. Ouais. Jean-Edouin, est-ce que vous n'avez pas un peu l'ouïe sélective les investisseurs? Parce que finalement, dans ce qu'a dit la Fed, on a surtout retenu les perspectives de baisse de taux. Le reste, l'inflation, la croissance plus forte qui pourrait justifier un statu quo monétaire,
Bah, si vous mettez dans la balance les risques et les opportunités, quelque part, vous avez eu un rebond spectaculaire des marchés alors que les taux étaient encore très hauts.
Ouais.
Et les perspectives étaient qu'ils allaient baisser. L'activité est meilleure. On reporte un peu les baisses de taux, mais finalement, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous avez l'activité et vous n'avez même pas encore eu le fuel supplémentaire de la baisse des taux. Donc, le probable, c'est que si jamais il y a un ralentissement, vous avez encore énormément de réserves sur les marchés issues d'une baisse de taux éventuelle. On est quand même en taux réel très positif. C'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc, on peut vraiment baisser les taux. Si vous avez l'inflation à 2,5 ou à 3, vous avez 2,5% de taux réel. C'est pas courant aux États-Unis. Ils ont plutôt tendance à naviguer sur des taux neutres. Donc, moi, personnellement, je trouve que d'un point de vue macro, il n'y a pas trop de danger. Mais je regarde beaucoup les taux longs parce que le Nasdaq, les valeurs de croissance sont très sensibles aux 10 ans, beaucoup moins aux Fed Funds. Et le 10 ans, tant qu'il reste en dessous de... C'est un peu une zone de danger. Hein. 4,50, ça n'irait pas du tout. Donc, on surveille ça de très près.
Vous me tendez une énorme perche, là. L'inversion de la courbe des taux aux États-Unis, qui, en principe, l'inversion de la courbe de taux, c'est annonciateur d'une récession. Là, ce n'est pas le scénario.
Pensez à inverser les choses. Imaginez la quantité colossale d'argent qu'il y a dans les fonds monétaires. Les fonds monétaires à 5,5... Si ça descend, cet argent va se libérer et il va aller dans le reste des marchés. Or, ces marchés sont déjà très hauts. Donc, je ne sais pas où va aller cet argent, mais il ne va pas faire baisser les marchés. Et il y a d'autres aspects de l'économie qui ont besoin de cette liquidité. L'immobilier aux États-Unis, pas l'immobilier résidentiel, mais l'immobilier de bureau, l'immobilier industriel, ça va très mal. Ça pèse énormément sur les petites banques, sur les banques régionales. Là, la baisse des taux serait très très bienvenue. Par ailleurs, vous avez...
On a compris que vous étiez content.
Comment ?
On a compris que vous étiez content.
Oui, enfin, moi je dis juste que...
Et ceux qui ont un prêt immobilier aussi.
Tout le monde n'est pas très heureux du rebond. Il y a des parties de l'économie qui vont mal.
On va parler des conséquences en matière d'investissement. D'abord, il est 17h16, dernière ligne droite. Voilà, avant la clôture. Moins 0,31% sur le CAC, 8154 points. Toujours un petit peu le même profil. Hein. Les valeurs du luxe qui souffrent cette semaine. Kering, encore une séance de baisse, la troisième consécutive. On perd 16-17% là en l'espace de 3 jours. Et puis de l'autre côté, on en parlera à la clôture, Téléperformance. Troisième séance de hausse, troisième fois que le titre termine en tête des progressions sur le CAC. Pratiquement 3% de mieux après... Un scénario un petit peu catastrophe en début d'année, mais on a l'impression que le marché est en train de revoir sa copie sur Téléperformance. On avait peur que l'intelligence artificielle ne remette fondamentalement en cause le business model de l'entreprise. Et puis, chose promise, chose due, on vous parlera tout à l'heure à la clôture de Orpea et de son nouveau nom, Imeis. Paraît que ça veut dire ensemble, je crois, en grec. On verra si les investisseurs ensemble, en tout cas, pour l'instant, on a mis ensemble les anciennes actions. Hein, 1000 actions qui sont devenues une seule. Le titre gagne pratiquement 5%. On va revenir sur les conséquences de cette décision de la Fed, de cette annonce, en termes d'investissement. Tout à l'heure, un invité en début d'émission nous disait « Ne vous mettez pas en face de l'un des plus forts épisodes risk-on depuis 10 ans ». On va expliquer risk-on. Le scénario risk-on, c'est lorsqu'on fait grimper le prix des actifs risqués sur la base d'indicateurs plutôt positifs ou très positifs. Là, en l'occurrence, la conjoncture et les baisses de taux. Vous croyez réellement que ça va propulser les actions vers de nouveaux sommets, ces baisses de taux, Alexandre ?
Moi, je reviens sur vos propos il y a quelques instants sur la question des mouvements de taux, effectivement. Je suis d'accord avec vous que suite mercredi soir, il ne s'est pas passé grand-chose. On peut la parler. D'abord, le communiqué, ça a un petit peu bougé sur le 10 ans, mais il ne s'est pas passé grand-chose sur le 10 ans américain mercredi soir. Par contre, il s'est passé beaucoup de choses sur le 10 ans américain entre la réunion de décembre, donc qui était importante, celle où Jérôme Powell a ouvert la question, le sujet des discussions sur les baisses de taux, et maintenant, on était... avant que Jérôme Powell ne parle en décembre, aux alentours de 4,2, 4,30. On est descendu juste après ses propos, alors qu'on avait déjà de 5% avant. Mmh. Le pic était à 5. Avant qu'il ne parle, on était à 4,2. Et on est allé chercher les 3,8. Juste après qu'il ait parlé, dans la foulée, hein, 2 jours, 3 jours après, des colombes de la Fed, pas des faucons, des colombes, se sont exprimées et ont dit « Non, les baisses de taux, c'est plutôt S2, etc. » Ils ont repoussé les attentes. Les taux sont passés de 3,8 à effectivement 4,30, où ils oscillent 4,2, 4,30 depuis quelques temps. Et cette phase-là, en revanche, pour le marché action, a été totalement, totalement indolore parce que saison de résultats très bonne pour la tech, principalement pour la tech quand même. Et puis pourquoi ? Résultat très bon, mais pas de nuance. Et ce qui, je trouve, un peu problématique à un moment donné, c'est quand le marché... Encore une fois, je ne dis pas que les résultats n'ont pas été là pour les 7 magnifiques et pour la tech en général. C'est des résultats toujours très bluffants. C'est quand le marché action, alors que tous les autres marchés sont réactifs, le marché obligataire, le marché d'échange aussi, le dollar entre les petites couleurs, on a vu des métaux aussi réagir par rapport à la question des taux, mais le marché action et la composante tech restent assez insensible à ça, alors qu'elle devrait l'être. Et le risque, c'est quoi? C'est que les valorisations à 21 fois les bénéfices, je rappelle juste un chiffre, le pic qu'on a touché post-Covid dans la partie vraiment euphorique, hein, taux négatif, liquidité massive, 4 000 milliards d'injections de la part de chaque banque centrale, hein, Fed, BCE, c'était 23 fois les bénéfices pour le SP500 au pic. Hein. Et derrière, il y a eu 30% de correction avec des sujets comme l'Ukraine ou autre, mais on revient à 21 fois les bénéfices. Ça devient des zones, historiquement parlant, sur 50 ans ou autre, des zones qui signalent le début de la cherté, donc pas encore des niveaux de bulle, mais le début d'une présente.
La question, elle est particulièrement bien adaptée à votre segment, puisque chez Quadrille Capital, vous, votre segment, c'est la tech. On est déjà un peu cher quand même sur la tech.
Oui, en fait, c'est intéressant parce que ce qui s'est passé, que vous avez souligné que les taux avaient beaucoup baissé et se sont mis à remonter quand la Fed a parlé de retarder les baisses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la tech, elle a continué à monter. Mais à l'intérieur, et nous, on regarde beaucoup les petites valeurs de croissance et ce qu'on appelle non-profitable tech, c'est-à-dire sur des sociétés qui sont innovantes et qui sont encore loin de la rentabilité. Il y a la biotech là-dedans. Dans la biotech, c'est que de la R&D côté. Ça met beaucoup de temps à se matérialiser. Ces secteurs-là, ils ont sous-performé depuis ce pivot, on va dire un peu négatif, c'est un pivot de retardement. Les 7 magnifiques et les méga caps, elles ont continué à monter parce qu'elles ont un autre rôle. Elles sont d'abord incroyablement rentables, quel que soit le cycle économique. C'est un peu des utilities en même temps que d'être des valeurs de croissance. Et elles sont colossales. Elles peuvent en fait servir de refuge pour les boursiers parce que la liquidité est énorme et la capitalisation est énorme. Je rappelle quand même que Apple et Microsoft, c'est plus de 3 000 milliards de dollars de capi. C'est très facile de parquer son argent là-dedans. Mais les plus petites valeurs de croissance, dans lesquelles je suis investi aussi, elles sont à la traîne. Elles n'ont pas du tout rebondi. Donc, et en plus, à l'intérieur de la tech,
si j'ai bien compris, vous êtes en train de m'annoncer une rotation, non pas sectorielle, mais entre les différents compartiments de la tech.
Et plus la baisse de taux est retardée, plus ça va s'accentuer. Et en 2022,
donc, on va passer des stars de la tech vers des sous-segments, c'est-à-dire, vous l'avez dit.
Le jour où la Fed baissera vraiment les taux, la liquidité descendra vers les plus petites valeurs et il y aura une rotation favorable à l'innovation, on va dire. C'est en 2022, qui était vraiment l'hécatombe de tous les marchés, de la dette et de l'equity, en fait, Apple et Microsoft ont surperformé tout le reste. Pourquoi ? C'est des plus grosses capitalisations. Je rappelle qu'on parlait de la Banque Nationale Suisse il n'y a pas longtemps, et des Japonais qui achètent des ETF sur leurs propres actions. La Banque Nationale Suisse a acheté des actions Microsoft et Apple. Ils avaient besoin de diversifier leur portefeuille. Ils ne peuvent pas acheter leur propre dette. Donc, ils achètent du bond, ils achètent du bond du Trésor US et ils achètent quelques actions
américaines. On achète là Apple, tiens, vu que vous êtes spécialisé dans les valeurs de la tech. On a perdu, je crois, 113 milliards de dollars de capi juste en une séance.
Oui, mais l'épaisseur du trait. Ce qui compte, en fait, sur Apple...
113 milliards,
oui, mais parce que c'est des chiffres qui parlent énormément.
Mais dites pas ça à Bruno Le Maire.
Mais c'est parce que la capi est énorme et quand elle bouge de 5%, tout d'un coup, c'est un très gros chiffre. Mais ce qui se passe sur Apple, c'est qu'ils sont en retard sur l'IA. Ils ont raté ce virage. Ils sont 20% de leur chiffre d'affaires, c'est en Chine, donc ça va pas. Et en fait, il y a une fatigue de l'iPhone. Ils ont besoin d'avoir un cycle d'upgrade qui soit un peu plus pertinent pour les utilisateurs. Mais la marque est ultra puissante. Ils ont basculé vers un modèle de service et d'abonnement. Donc, je veux dire, c'est pas très grave, mais il faut attendre peut-être qu'ils annoncent quelque chose de conséquent sur l'IA. C'est vrai qu'ils y sont pas et c'est très important et il faut s'attendre à ce que le téléphone soit entièrement reconfiguré comme quand on est l'iPhone est apparu, c'était une révolution dans la téléphonie mobile.
L'IA sera la suivante.
L'IA, c'est une révolution du système d'exploitation du téléphone mobile. Et ça, c'est très important.
Il paraît qu'à iOS 18, le prochain système d'Apple aura beaucoup d'intelligence artificielle. On va parler d'Apple dans un instant dans la Data Room. Mais d'abord, Étienne Brack, qui nous appelle depuis Euronext. Étienne, il reste une bonne dizaine de minutes avant le fixing. On parlait tout à l'heure avec Andrea Tueni d'une sorte de latéralisation du marché. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. On fait du surplace là depuis quelques jours.
Très clairement, et le seuil des 8200 points a du mal à être franchi depuis le milieu de la semaine. 8149 points à l'instant, c'est une baisse de 0,3% avec une nette sous-performance du CAC 40 par rapport aux autres indices en Europe. Regardez notamment le DAX à Francfort qui gagne 0,2% et puis même par rapport à Wall Street avec un indice S&P 500 qui de son côté perd 0,15%, un Nasdaq qui est quasi flat. Et aujourd'hui, cette sous-performance, on la doit une fois de plus au secteur du luxe avec LVMH pardon, qui perd un peu plus de 2,3%, quand Kering de son côté abandonne plus de 3%. À l'inverse, les valeurs défensives essayent de prendre le relais, mais c'est bien compliqué aujourd'hui. Beaucoup de prudence, et cette prudence, elle se voit dans les carnets d'ordre, puisqu'à 11 minutes du fixing, vous avez seulement 1,5 milliard d'euros négociés dans l'indice parisien.
Merci beaucoup, Étienne. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour le fixing. On fera le bilan de la séance, mais aussi de la semaine sur le marché parisien. La Data Room, vous connaissez le principe. Tous les jours, nos invités viennent en plateau avec un chiffre qu'ils ont envie de commenter. Votre chiffre, Alexandre Baradez, votre data room à vous, 17, c'est le nombre d'États américains qui ont lancé une procédure antitrust contre Apple.
Oui, c'est bien ça. C'est le département de la justice américain et 17 États qui ont lancé une procédure antitrust. Le responsable antitrust du département de la justice explique que c'est une procédure qui était très méthodique, une enquête très méthodique, qui repose sur plusieurs millions de documents. Et interrogé ce responsable antitrust, on lui a demandé, mais est-ce qu'un démantèlement d'Apple, alors dans un scénario catastrophe évidemment, est-ce qu'un démantèlement serait possible? Réponse classique, tout est possible. Quand il faut trouver des solutions, il faut trouver des solutions par rapport à la position d'Apple. Donc c'est vrai qu'on en parle à l'instant, Apple, c'est enfin une mauvaise séquence pour eux. Seul petit élément un peu positif, c'est qu'en Chine, apparemment, ils veulent refaire un peu de leur santé. Il y aurait un accord, peut-être passé avec Baidu, pour justement développer de l'intelligence artificielle. Donc, c'est peut-être un petit quelque chose. Mais sur le front antitrust, juste pour compléter, on parle à l'instant, effectivement, de la taille de ces méga-caps. Effectivement, c'est un monde par rapport aux small et aux mid. Et c'est peut-être quelque chose qui est en train de se produire, là, l'enquête antitrust, parce que si on regarde d'un point de vue historique, on n'a jamais eu aussi peu d'enquêtes antitrust aux États-Unis que depuis 1989. Et moins il y a d'enquêtes antitrust aux États-Unis, plus les géants ont pu prospérer aussi. Peut-être qu'il y a un lien entre la faiblesse du nombre d'enquêtes antitrust, alors aussi bien sur les questions de fusion-acquisition que sur les questions de monopole ou de restriction de vente, mais en nombre d'enquêtes antitrust ouvertes aux États-Unis, on est au niveau le plus bas depuis 1989. Donc est-ce qu'on n'assiste pas là à un début peut-être aussi faire rentrer un peu d'argent dans les caisses? Il y a la question de déficit qui peuvent aussi un petit peu jouer, mais il me semble que c'est pas quelque chose d'anodin qu'on est en train de voir sur Apple. Il y a un peu de bruit autour de ça et c'est pas que du bruit. Et est-ce que ça ne pourrait pas s'étendre un petit peu aussi, peut-être en période électorale ou après, à d'autres stars de la côte aux États-Unis? Ça me paraît pas impossible.
Vous dites période électorale, pour ceux qui étaient avec nous un petit peu plus tôt dans l'émission, Jean-Edouin nous disait tout à l'heure, c'est pas un hasard si à l'approche des élections aux États-Unis on a toute cette agitation et toutes ces enquêtes antitrust.
Oui, en fait, il faut se souvenir du contexte en parallèle, celui de TikTok, la société chinoise qui est devenue le premier réseau social aux États-Unis parmi les jeunes et parmi les électeurs de droite. Les électeurs de Trump sont tous sur TikTok. Et il a changé d'avis sur le besoin de freiner cette société chinoise tellement symbolique. Il faut se souvenir qu'il était quand même le premier à attaquer la Chine, et qu'il était arrivé.
Je ne vais pas faire de mauvais esprit. C'est pas la première fois que Donald Trump change d'avis sur un sujet.
Probablement, mais c'est aussi un sujet politique. Tous ces sujets sont hyper politiques. Ouais. Les GAFAM sont des projections de la puissance américaine à travers le monde, et je pense que cet antitrust sur Apple, il a été nourri de... Il y avait Epic Games, qui était donc une société de jeux vidéo, qui s'est plaint parce qu'ils étaient taxés. Ils prennent 30% sur le App Store pour tous les jeux qui sont vendus. Il y a clairement un sujet. L'antitrust qui a été lancé contre Amazon il y a 2 ans était un échec cuisant. Donc là, je pense qu'ils ont beaucoup mieux préparé le dossier et ils ont vraiment envie d'aboutir. Mais je pense quand même qu'il faut... Pour moi, ça reste hyper politique et c'est à mettre en parallèle avec ce qui se passe sur TikTok. Parce que c'est important pour Biden de montrer que il n'est neutre face aux GAFAM, alors qu'elles
alors
ont tendance
ses principaux
à promouvoir et être favorables aux électeurs démocrates.
Ouais, on est d'accord. Voilà. Votre data room, à vous Jean-Edouin, 7,5, c'est un pourcentage. C'est la part de la consommation électrique mondiale dédiée aux data centers et à l'intelligence artificielle en 2030. C'est une prévision.
C'est une prévision. Aujourd'hui, les centres de données représentent à peu près 2% de la consommation électrique c'est aux États-Unis. C'est pas un chiffre mondial. Et la prévision pour 2030, c'est 7,5%. C'est une accélération très importante de la consommation d'électricité. Alors, vous vous souvenez, on a eu les cryptos, on décriait qu'elles consommaient trop d'électricité. On a eu la promotion des voitures électriques, on s'est inquiété de savoir si on allait pouvoir les recharger à bon prix. Maintenant, ce sont les centres de données. Je pense que la différence qu'il y a ici, c'est qu'on est sûr que les CAPEX qui vont être déployés sur les centres de données de l'IA vont être financés, parce qu'ils sont financés par des poches très profondes. C'est pas subventionné comme les voitures électriques. Il n'y a pas de dette fiscale qui est derrière, et c'est pas spéculatif comme la crypto. Donc en fait, on a affaire à quelque chose qui est probablement assez proche de réalisation. Et c'est vrai qu'il y a juste deux semaines, Amazon a mis la main sur une centrale électrique entière en Pennsylvanie.
Un réacteur.
Voilà. Ils ont un centre de données, en fait, un énorme hangar est vide, juste à côté. Ils l'ont acheté. Ils ont réservé 10 ans de production électrique pour ce data center et deux options supplémentaires pour acheter la totalité. Donc, on voit bien que l'IA, c'est un nouveau modèle économique. C'est de l'informatique vendue comme de l'énergie. C'est vendu comme de l'essence à la pompe. Il faut de l'énergie pour l'alimenter. C'est très énergivore et il faut absolument montrer au monde que c'est décarboné. Donc voilà, ce chiffre de 7,5, c'est un peu pour capturer l'importance de l'énergie, pour rappeler que l'IA, c'est géopolitique, que c'est énergivore et que ça va entraîner beaucoup de conséquences, on va dire, économiques, au-delà de l'impact social.
Alexandre, un commentaire. On va décarboner l'IA, c'est peut-être plus intelligent de s'atteler à ce chantier que de limiter la consommation de data à 3 gigas par semaine, c'était ça, ou par mois, la proposition de Najat Vallaud-Belkacem qui voulait limiter la consommation.
Bon, ça entend les thèmes, parce que vous êtes bien plus spécialiste que moi, mais c'est par contre, ça fait penser à un thème qui était largement sous-joué en bourse et qui peut être un très bon thème, je pense, pour les mois qui viennent.
La décarbonation de l'IA.
Le thème de tout ce qui est énergie renouvelable, vous regardez là, la poche, elle avait gonflé en bourse post-Covid comme tout le reste.
Ça s'est effondré.
Et aujourd'hui, on est sur des valos vraiment intéressantes. C'est un des rares segments qui n'a pas rebondi comme le reste, et je pense qu'il y a de très bons points d'entrée et vraiment une bonne diversification. Et comme vous le disiez, il y a les États derrière, il y a les budgets, c'est politique en fait. Donc c'est un secteur qui ne peut pas tomber et qui ne peut qu'accélérer. Donc les points d'entrée me semblent très intéressants actuellement.
Et si le sujet vous intéresse, sachez qu'il a été évoqué par Jean-Edouin Réa, Quadrille Capital, qui était avec nous dans l'émission hier. On en a parlé vraiment en détail de cette décarbonation et de ce qu'on pouvait jouer en bourse comme valeur pour jouer cette thématique. Il y a effectivement les processeurs, on en parlait en amont, donc Nvidia qui présente des puces moins énergivores, mais il y a tous les climatiseurs, puisque si j'ai bien retenu les chiffres, la moitié de l'énergie dépensée sert à refroidir
40%, ouais.
40%,
ouais.
On n'est pas loin. Voilà.
À refroidir les data centers, mais il faut aussi refroidir les puces elles-mêmes.
Dans l'eau.
On crée des serveurs qui sont immergés, en fait. Voilà. Des serveurs dans l'eau, c'est des aquariums.
Ouais.
Non, mais c'est,
l'émission
c'est
d'hier est disponible fabuleux. En replay. Vous pouvez toujours aller sur le site de BFM Bourse et revisionner. C'était avec Jean-Edouin Réa, gérant Quadrille Capital hier. Merci beaucoup Jean-Edouin d'être revenu nous faire un coucou aujourd'hui. Merci Alexandre Baradez, chef analyste chez IG.
Merci
pour ce club donc qui plutôt bien passé hein, cette semaine avec les banques centrales. Ça a rassuré tout le monde, on le voit bien. Mais, le CAC, lui, est en baisse. Moins 0,34%. On est en train de s'installer dans une forme de latéralisation. 8151 points. C'est pas tout à fait le fixing. On vous raconte la séance et la semaine boursière juste après la pause avec Étienne Brack et nos invités.
BFM Business, BFM Bourse. La clôture à Euronext.
Terminé, fin de semaine à la Bourse de Paris. On met les chaises sur les tables. Moins 0,34% pour le CAC, Étienne. On termine dans le rouge. C'est dommage.
En effet, dans le rouge, avec même une baisse de 0,15% sur l'ensemble de la semaine. Clôture hebdomadaire négative pour la première fois après deux semaines dans le vert. Un CAC 40 qui échoue une nouvelle fois à l'approche des 8200 points. 8151 points, c'est une baisse de 0,3% ce soir à la clôture. Indice qui a été pénalisé ce soir par le secteur du luxe. Kering ferme la marche, moins 3% ce soir. Le titre cède quasiment 15% sur l'ensemble de la semaine suite au warning du milieu de semaine. LVMH de son côté perd un peu plus de 2% avec Tony Belloni qui va quitter ses fonctions le mois prochain, directeur général délégué actuellement de LVMH. Donc par rapport à cela, vous avez un groupe qui recule à 828 euros. Hermès également est dans le rouge avec un titre qui perd 1% à 2386 euros. Dans un contexte de doute et une veille du week-end, vous avez des investisseurs qui reviennent sur les valeurs défensives. Orange, Sanofi ou encore Thales gagnent plus de 1% ce soir à la clôture. Et puis enfin à noter, Téléperformance qui continue à être ramassée dans le CAC 40, plus 3% ce soir au fixing, au-delà des 90 euros. À noter une nette détente sur le marché obligataire avec un marché qui anticipe de plus en plus une baisse de taux, en tout cas à 70% d'après FedWatch aux États-Unis dès le mois de juin. 10 ans américains qui revient à 81, qui perd 6 points de base. Le 2 ans de son côté s'échange à 4,59 et perd 5 points de base. Et donc l'indice parisien qui clôture dans le rouge ce soir, moins 0,3%, 8151 points, clôture hebdomadaire négative également. Des volumes qui se sont vraiment faits en fin de séance, puisque vous avez plus de 1,5 milliard qui a été exécuté lors du fixing. Ce qui nous amène à 3,1 milliards d'euros négociés ce soir dans l'indice parisien.
Merci beaucoup, Étienne Brack, notre correspondant à Euronext. D'un point de vue technique, où est-ce que ça nous mène? On va en parler avec Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank. Andrea, on le disait tout à l'heure, on est en train de s'installer dans une forme de latéralisation sur le CAC, c'est-à-dire que après les records de ces derniers jours, on revient à la situation ex-ante, quoi, 200 et quelques points au-dessus.
Oui, c'est à peu près ça. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, on était déjà dans cette logique un petit peu de latéralisation avec un CAC qui était très calme, qui évolue dans un trading range d'une centaine de points et on pourrait revenir sur cette dynamique-là. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une séance de léger retrait sur le CAC, mais ça s'explique essentiellement par la mauvaise tenue des valeurs du luxe qui tire l'indice vers le bas. C'est ce qui explique qu'on a une petite sous-performance du CAC par rapport à d'autres indices européens. Mais c'est vrai que globalement, on a ce risque en effet de latéralisation sur le CAC. Il y a des niveaux de support d'ailleurs qu'on peut identifier à court terme, 8125. 8045, ça c'est des zones de support sur lesquelles on peut venir s'appuyer. Un peu au-dessus, un cran pardon en dessous, on a d'autres niveaux à surveiller. 7975, c'est un niveau de support. Et puis après, on a une zone de neutralisation. Si on passe sous les 7875, là on part sur une dynamique beaucoup plus neutre sur le CAC. Et la zone d'alerte là, elle est beaucoup plus basse, elle est à 7550. Sous les 7550, là on prendrait un virage beaucoup plus négatif sur le CAC, mais on en est très loin pour le moment. Donc c'est vrai que le scénario le plus probable, ça va évidemment dépendre des publications qu'on va avoir, ça va dépendre de la tenue aussi des marchés américains, c'est d'avoir peut-être une période beaucoup plus calme, une période en effet de latéralisation avec un trading range plus serré d'une centaine ou 200 points maximum sur le CAC dans lequel on pourrait évoluer du coup dans les prochaines semaines. Et c'est vrai que pour le moment, voilà, une clôture un peu négative, mais encore une fois replacée dans un contexte des valeurs du luxe qui baissent et qui ont une forte pondération dans le CAC et d'une semaine qui a été extrêmement chargée avec des nouveaux records qui ont été atteints hier, que ce soit en Europe ou aux États-Unis.
Merci beaucoup Andrea Tueni, Saxo Bank, vous restez avec nous. On refait la séance tout de suite avec nos invités.
BFM Bourse, on refait la séance.
Invité 5 étoiles ce soir, Thierry Gauthier, directeur général de GSD Gestion. Rebonjour, vous étiez avec nous en début d'émission. Jean-Louis Delloro, BFM Bourse, membre de la famille.
Bonsoir Stéphane.
Salut Jean-Louis. Et Andrea Tueni, bien sûr, sales trader chez Saxo Bank. Côté valeur, on va commencer par le grand retour d'Orpea sous son nouveau nom, ça s'appelle Emeis, 2 ans après le scandale qui avait vraiment terrassé l'entreprise. C'est le premier jour de cotation, c'était le premier jour aujourd'hui, avec les actions rassemblées, c'est-à-dire 1000 anciennes actions qui deviennent une action. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Le titre termine en nette progression, pratiquement 5%, mais est-ce que c'est le moment de revenir sur cette valeur? Qui veut commencer, Thierry?
Pour nous, c'est pas encore tout à fait le moment de revenir. Alors c'est vrai que c'est une opération technique, hein. C'est un regroupement d'une action pour 1000 anciennes. Il le fallait puisque ça cotait des dixièmes de centimes, donc c'était pas possible de rester sur des niveaux comme ça. La recapitalisation est terminée. Le titre fait aussi son retour aujourd'hui sur le SRD, donc on peut de nouveau faire des achats ou des ventes à découvert, donc ça peut être aussi une mauvaise nouvelle. Mais voilà, pour nous, c'est encore un peu tôt. Il y a encore une année ou deux de pertes à venir. Il y a encore une dette qui est colossale malgré la recapitalisation. Et puis, des sessions d'actifs à venir, lesquels actifs vont être cédés, tout ça, c'est pas encore bien clair. Et l'exploitation, il va falloir que ça reparte, et tout ça, ça va prendre un peu de temps. Même si les premiers indicateurs sur l'exploitation montrent que, a priori, voilà, les clients sont au rendez-vous, il y a encore beaucoup de chemin à faire et on reste à l'écart pour le moment sur le titre.
13,32 €, hein, on termine finalement en hausse de 3,3%. C'est un petit peu essoufflé en fin de séance, Jean-Louis.
Moi, je suis assez d'accord. Hein. Alors, c'est sûr qu'on est au début d'une nouvelle histoire. On a changé de nom à Orpea. Maintenant, c'est Emeis. On s'est restructuré autour d'actionnaires qui sont quand même très costauds. Faut le rappeler. Hein, c'est la Caisse des Dépôts, donc ça veut dire l'État, hein, quelque part. CNP Assurance ou encore MACSF Épargne Retraite. Donc, c'est quand même du costaud. On a réinjecté des fonds. On a effacé une partie de la dette. On a remis une action un peu en ordre de marche quand même parce que c'était pas très sérieux d'avoir une action qui cotait comme on vient de le dire, des dixièmes de centimes. Mais fondamentalement, moi, j'ai quand même envie d'attendre de voir ce que ça va donner parce que là on va rentrer dans l'opérationnel. Effectivement, il va peut-être y avoir des cessions d'actifs pour effacer une partie encore de la dette. Et puis on va voir comment ils vont aussi pouvoir améliorer leur image et puis le traitement des résidents en maison de retraite s'ils arrivent à stopper toute maltraitance tout en arrivant à dégager une marge dans les prochains mois. Donc c'est pas forcément évident. On va dire c'est quand même une activité compliquée, complexe et qui en plus va être particulièrement surveillé après les scandales qu'il y a eu par l'État. Donc à voir dans les prochains mois. Moi j'attendrai encore plusieurs trimestres avant de regarder le dossier d'un peu plus près.
On se posait la question tout à l'heure dans la famille, mais changer de nom pour faire oublier des difficultés ou des scandales, ça marche pas à tous les coups, hein, Thierry Gauthier. On a bien vu.
On a déjà eu Korian qui a changé de nom pour Clariane. Oui, pour le moment, ça n'a pas eu les effets escomptés. On a eu Forvia. Bon, pour le moment, c'est pas non plus. Alors, il n'y a pas eu de scandale hein, sur Forestia, mais.
Non, mais.
Mais voilà, on a eu.
Là, c'est peut-être une autre catégorie, c'est lorsqu'on change de nom pour refléter une nouvelle stratégie. On a vu Total, qui est devenu Total Energy, pour bien expliquer que les énergies, c'était pas uniquement le fossile.
Voilà, ça tout dépend de la raison du changement de nom. On a eu Eurotunnel, qui était devenu Gatling, qui est plutôt un bel exemple pour le coup. Et puis Total en Total Energy que vous avez cité également. Donc non, ça dépend surtout de la raison pour laquelle vous le faites. Ouais.
On va s'intéresser au secteur du luxe qui a un petit peu souffert aujourd'hui. Kering, troisième séance de baisse, 3,6% de baisse à la clôture. Et LVMH qui perd 2,3%. C'est quoi le problème? Parce que sur LVMH, on a une info, c'est le directeur général délégué qui va aller en Italie diriger une filiale, une business unit du groupe. C'était le numéro 2, alors évidemment ça peut déstabiliser, ça peut inquiéter le marché. C'est ça qui a fait baisser LVMH aujourd'hui, ou est-ce que d'une manière plus générale, vous avez le sentiment que sur le luxe, on est en train de prendre ses bénéfices?
Non, moi je pense que c'est surtout, il y a eu une note d'analyste hein, de Royal Bank of Canada qui n'était pas très très positif sur l'ensemble des acteurs du luxe, et notamment LVMH. Hein, ils estiment que la croissance sur les trois premiers mois de l'année va pas être très bonne. Et ils s'inquiètent notamment de la Chine. Donc en fait, tout le monde descend un petit peu, hein, que ce soit Kering, LVMH ou même Hermès. Ça, c'est une note d'analyste. Moi, j'ai envie de dire, LVMH, globalement, ces dernières années, ils nous ont quand même appris qu'ils étaient capables de surprendre positivement le marché, de dépasser les attentes quasiment à chaque trimestre. Alors oui, il y a la problématique de la Chine, le marché qui ralentit en Chine. Et puis, on a peu d'informations, en vrai, sur l'état réel de l'économie chinoise. Donc, c'est un petit peu compliqué. Par contre, on a l'impression que, de toute façon, les acteurs du luxe ont bien conscience de ça et qu'ils essayent de trouver des relais de croissance à droite, à gauche et qu'ils commencent peut-être à y arriver. Et puis, pour LVMH, moi, je me dis pourquoi pas un effet JO dans les prochains mois à Paris. S'il y a énormément de touristes qui arrivent, peut-être qu'ils vont avoir un petit bond de vente à ce moment-là. À voir. Donc, moi, je serais plutôt positif pour LVMH. Là, c'est une mauvaise journée, mais bon, ça arrive en bourse.
Thierry, vous aimez bien LVMH, vous êtes plus prudent sur Kering.
Oui, on est plutôt à l'achat sur LVMH, pour les raisons que vient d'expliquer Jean-Louis. C'est un titre qui se paye 24 ou 25 fois les profits. Dans le, le contexte actuel, avec la croissance qu'elle connaît et les bonnes surprises qu'elle provoque à chaque fois au moment des publications, c'est pas si cher payé. Donc c'est un titre qu'on aime bien et qu'on a en portefeuille et sur lequel, dès qu'on revient en dessous de 800 euros, on est plutôt même à se repositionner à l'achat. Et voilà, l'annonce de Tony Belloni qui quitte la direction générale du groupe, pour nous, c'est pas un événement majeur. C'est quelque chose qui a été négocié dans le top management. Et il va rester proche de Bernard Arnault pour des missions stratégiques. Vous l'avez dit, président aussi de LVMH Italie. Ouais. Donc c'est pas un départ pour des raisons de problématiques vraiment sur le groupe. Donc on n'est pas inquiet pour ça. Et voilà, comme l'a dit Jean-Louis, il y a l'effet Kering il y a deux jours avec ses résultats et notamment les moins 10 ou moins 20% attendus sur le chiffre d'affaires de Gucci au T1. Ça fait du mal avec l'Asie qui peine. Bah forcément, on se dit que peut-être que LVMH, il peut y avoir aussi un mouvement qui s'enclenche de ce côté-là. Donc voilà, tout le secteur recule un petit peu, mais il n'y a rien de dramatique aujourd'hui.
Et puis j'ai envie de dire que Kering, c'est un peu l'inverse de LVMH. Ils ont plutôt eu tendance à nous décevoir quasiment à chaque fois. Et Gucci, surtout, ça ne va pas, ils n'arrivent pas à relancer la marque.
Hein. Et ça représente la moitié du chiffre d'affaires de Kering. Qu'est-ce qu'on peut en dire techniquement, Andrea, de LVMH ? Petite baisse aujourd'hui, on est encore en hausse de 15% pratiquement depuis le début de l'année. Et on a toujours un plus haut historique à 904,60 €. Là, on est à 829.
C'est vrai que depuis le début de l'année, le titre est toujours en forte hausse, mais on observe quand même quelques petits signaux techniques qui sont pas très encourageants, des signes de dessoufflement. On a aussi des pressions acheteuses qui sont un petit peu moins importantes. On voit un indicateur comme le RSI qui est en baisse typiquement sur LVMH. Donc c'est vrai qu'on a quand même ces petits premiers signaux, on va dire, voilà, d'essoufflement, on peut avoir une petite consolidation sur le titre. Nous, ce qu'on observe comme niveau, c'est essentiellement une cassure. Si on passe sous les 822 €, là, on a un risque sur le titre de revenir sur des niveaux tels que 785 ou 762 €. Et pour redonner en fait une dynamique acheteuse très forte, pour redonner de la force au mouvement acheteur qu'on a pu voir sur LVMH, notamment après les derniers résultats, là il faudrait repasser techniquement toujours au-dessus des 886 € pour redonner, on va dire, cette dynamique acheteuse. Mais c'est vrai que pour le moment, on a des petits signes un petit peu de friction technique et peut-être d'essoufflement.
Et donc ce soir, une baisse de 2,1% sur la valeur, 829,70 € sur l'ensemble de la semaine. Le titre LVMH perd 3,8%. Une valeur qui s'est distinguée cette semaine en hausse du CAC. En haut du CAC, une hausse pour Téléperformance. 3,1% de hausse ce soir. C'était déjà l'une des meilleures performances hier et avant-hier sur le CAC. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Jean-Louis, sur Téléperformance ?
Excellente question. J'ai pas forcément la réponse. Ce qui est sûr, c'est que ça rebondit depuis 3 jours. On est autour de plus 8, plus 9% sur les 3 dernières séances. Mais il n'y a pas tellement d'actualité sur le groupe. Donc on peut se dire qu'il y a des gens qui se reprennent position sur Téléperformance en se disant que la valeur a été massacré. Il faut dire que quand on regarde depuis le pic historique, j'ai regardé en janvier 2022, le cours de l'action a été divisé par 4, même par plus de 4. Certains investisseurs peuvent se dire que ça y est, c'est bon, le fond de la piscine a été touché. Et surtout, quand on regarde le ratio cours sur bénéfice, quand on regarde quand même beaucoup en bourse, on est à un peu moins de 9. Donc ce qui est pas cher payé pour une valeur tech, surtout quand on regarde les valeurs américaines, où souvent on est à plus de 30, 40, 50 ou plus. Mais le problème, c'est que, en tout cas, je suis toujours pas rassuré sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le business model de Téléperformance. Vous savez, faut le rappeler, c'est des centres d'appels et de la relation client, etc. À partir du moment où maintenant on sait faire des voix artificielles qui ressemblent à des humains, on sait faire des réponses automatisées très pointues en fonction des, et en plus on sait entraîner des IA sur un corpus spécifique, c'est-à-dire par exemple sur des conditions générales de vente,
choix multiple, faites le 1, le 2.
On n'est plus sur le chatbot d'il y a 10 ans où bon, c'était un peu ridicule. Là, on est quand même sur quelque chose de très costaud. Et puis il y a eu le précédent Klarna, vous savez, la fintech suédoise, spécialiste du paiement fractionné. Et donc ils ont développé un outil d'intelligence artificielle et qui a permis de répondre. Eux, ils estiment que ça fait le travail l'équivalent de 700 personnes à temps plein. Attendez, accrochez-vous bien, c'est le même taux de satisfaction et même les réponses sont plus précises. Donc forcément, Téléperformance s'était pris un gadin derrière. Alors eux, Téléperformance, ils essayent de rassurer, ils disent non, ça n'a rien à voir, ça c'est. De toute façon, on développe nous aussi plein d'outils d'IA et tout. Sauf que quand on regarde le revenu sur le dernier trimestre, ça coince, ça freine, alors que c'était une valeur qui était quand même en très forte progression ces dernières années. Moi, j'attends de voir où ils en sont là-dessus. Donc là, bon, ça augmente sur les trois dernières séances. Moi, j'attendrai de voir sur les prochains trimestres s'il se passe quelque chose de ce côté-là sur l'IA.
Thierry Gauthier, les inquiétudes, Jean-Louis vient de le rappeler, c'est l'intelligence artificielle et la menace sur le business model, mais est-ce qu'on n'a pas un petit peu surréagi? Parce que cette question de l'intelligence artificielle qui va disrupter, je suis désolé pour le mot, pas mal de métiers, on pourrait se poser la question pour d'autres entreprises qui n'ont pas été sanctionnées de la même façon. Est-ce oui, que la sanction n'a pas été un peu sévère quand même?
Alors c'est vrai que cette téléperformance a été vraiment au cœur de cette problématique-là. Après, il faut se souvenir que l'évolution des technologies, c'est pas toujours les ennemis de ces sociétés-là. Je me souviens d'il y a 10 ou 15 ans, Publicis qui n'avait d'autre solution que de mourir parce que la publicité basculait de la télé à l'internet, qu'il y avait la disparition des cookies et qu'on pouvait plus tracer les clients sur les réseaux. Et tout ça, en fait, aujourd'hui, Publicis en a fait presque une force et a retourné tous ces éléments en avantage ou en outil pour développer encore. On souhaite la même chose à Téléperformance. Alors évidemment, il y a des problématiques stratégiques à adresser qu'il faudra bien adresser. Mais pourquoi pas l'IA au service de Téléperformance aussi dans certaines mesures. Alors c'est vrai que l'IA, ça va aussi avoir un effet très déflationniste et de baisse des prix donc sur tous ces services-là. Comment est-ce qu'ils vont savoir gérer ça? Il y a la fusion avec Majorel en même temps, mais c'est vrai que voilà, alors vous dites cette semaine plus 8%, est-ce que c'est un retour en grâce? Non, et il faut voir que depuis le début de l'année, elle est encore à moins 30. Ouais, elle est divisée par 4 depuis ses plus hauts, hein, comme Jean-Louis l'a expliqué. Donc,
c'est vrai qu'elle n'est pas chère, hein, elle est très basse, hein, elle est valorisée très basse, mais il y a peut-être une raison.
On est plus sur un rebond technique, j'ai envie de dire, cette semaine, mais oui, elle est valorisée 7 ou 8 fois les profits, elle donne 4 ou 5% de rendement désormais. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui est passée d'un statut de valeur croissance il y a 2-3 ans à un statut de valeur value. Donc aujourd'hui, il y a peut-être d'autres investisseurs qui s'intéressent au dossier. Et sur ces niveaux-là, on a envie d'y croire. Ouais.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir refait cette séance de vendredi. Thierry Gauthier, directeur général de GSD Gestion, et Jean-Louis Delloro, BFM Bourse, membre de la famille. Et Andrea Tueni qui était avec nous tout à l'heure, Saxo Bank. C'est la fin de cette émission. Je vous rappelle la clôture du CAC ce soir. -0,34%, 8151 points sur les 5 dernières séances. Sur l'ensemble de la semaine, on perd pratiquement 0,3%. Donc une semaine où on a finalement très peu évolué. Dans l'ensemble, les marchés américains sont ouverts. Le Nasdaq plus 0,16%. Le Dow Jones moins 0,5%. Le S&P pratiquement inchangé. Il perd à peine 0,1%. À suivre, Good Evening Business avec Guillaume Paul. Lundi, vous retrouverez Guillaume Sommerer aux commandes de BFM Bourse. Très bon week-end.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.